Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
En République démocratique du Congo, les zones humides ou terrains habituellement inondés ou gorgés d'eau sont menacés, disons, des spoliations. Et pourtant, ces espaces sont riches en biodiversité. D'après les spécialistes, certaines espèces végétales et animales s'y développent. La destruction de ces espaces a des conséquences non négligeables sur l'environnement. Alors, comment les protéger et surtout comment les valoriser? Professeur Moutambo Echango, vous êtes expert en écologie du milieu aquatique. Bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Et bienvenue, nos meilleurs vœux pour l'année 2007, professeur.
Merci, en espérant que... Je vais rectifier quelque chose.
Oui.
En espérant que les dégâts ne seront pas irréparables sur les zones humides.
Sur les zones humides. Alors, dites-nous directement ce qu'on entend par... Qu'est-ce qu'on entend par zone humide, les zones humides?
Chose simple. C'est un mot anglais. C'est sorti de mot anglais. Waterland. Oui. Qui veut dire un écosystème milieu situé entre le milieu aquatique et la terre ferme de façon ordinaire. Mais depuis un certain temps, quand les gens se sont rendus compte de l'importance de ces zones, qu'on a commencé à donner beaucoup de définitions. De sorte que dans les années 1971, après la signature de la convention de Ramsar, on a défini ces zones comme étant des étendues de fagnes, de tourbières, d'eau douce, d'eau saumâtre, d'eau salée, ou alors même des espaces marais qui, en période de basse eau, ont à peu près 6 mètres de profondeur. Tout cela constitue ce qu'on appelle des zones humides. Mais en dehors de ces zones qui sont naturelles, il y a aussi des zones artificielles, dont les étangs, des zones irriguées, où l'eau est en permanence ou de façon temporaire.
Ça fait partie des espaces humides.
Voilà.
Des zones humides. Alors, on retient que c'est vous avez appelé, ça vient de Waterland en anglais.
Les Français même l'appelaient écotone.
Écotone.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des espaces qui sont à côté des cours d'eau, qui sont à côté des cours d'eau, des rivières ou des fleuves?
Surtout, mais on peut les trouver un peu partout.
Ici chez nous, en RDC, on les trouve où par exemple?
Mais attendez. Le meilleur pays, c'est nous. Après le Brésil. C'est nous. Le plus grand parc de zones humides au monde. C'est nous, avec le parc de Salunga. Mais ça, c'est une portion. Mais s'il faut prendre toute la forêt équatoriale, fait partie d'une zone humide, qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est un autre problème. Voilà. En tout cas, nous sommes le deuxième...
Après le Brésil. Donc, nous avons beaucoup de zones humides.
Trop.
Trop même.
Oui.
Alors, et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces zones humides, professeur?
Mais on trouve tout.
Comme quoi?
Ben, en fait, ce sont des zones tellement riches en ressources économiques, ressources culturelles, scientifiques, alimentaires, récréatives. Vous avez tout. Mais des zones qui ont des fonctions énormes.
Quelles sont ces fonctions, professeur?
Oh là, il y en a beaucoup. Sinon, je risque de faire un roman fleuve. Et pour éviter de faire un roman fleuve, prenez...
Les fonctions essentielles, professeur, des zones humides. Voilà.
Ok, vous savez, les professeurs ont la diarrhée verbale. Les fonctions essentielles, oui. C'est la régulation du régime d'eau. régulation du régime d'eau. Ça, c'est une des fonctions essentielles.
Des zones humides.
Des zones humides, c'est pour réguler, ok, le régime d'eau.
Et comment se fait cette régulation?
Mais c'est simple. Prenez ici à Kinshasa, Ndjili Brasserie. C'était une zone humide. Ok?
Ndjili Brasserie.
Ndjili Brasserie. C'était une grande zone humide.
On peut dire que ce sont des zones favorables à la culture de riz.
Mais oui, mais là, ça, c'est, ça fait partie, si on, peut-être on aura le temps de parler de la gestion de ces zones. C'est une façon de gérer ces zones d'une manière durable.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est en train de faire des bêtises énormes. Et les conséquences, nous devons les subir, ou on les a même déjà subies.
D'accord. Avant d'y arriver, revenons à la régulation des régimes d'eau. Comment ça
donc,
se passe?
Donc, vous voyez, pendant la saison sèche, par exemple, il n'y a pas d'eau. Mais il y a l'eau de la nappe phréatique qui, par capillarité, monte dans ces zones-là facilement pour ce qui nous donne un peu d'humidité et tout qu'on sort. OK? Et pendant la saison de pluie, on a le mouvement inverse. Parce que la nappe phréatique aurait déjà perdu beaucoup d'eau pendant la saison sèche, l'eau de saison de pluie vont profiter pour entrer, alimenter la nappe phréatique. Pourquoi? Parce que dans le sol humide, dans le sol terre ferme, la pénétration est trop compliquée. Ça entre, mais c'est trop compliqué pour atteindre la zone, donc la nappe phréatique. Donc vous voyez, entrée, sortie. Vous voyez? Et maintenant qu'il n'y a pas de zone, les zones sont en train d'être dégradées, qu'est-ce qui se passe? L'eau, par exemple ici à Kinshasa, toutes les eaux de ruissellement vont dans les bassins versants des petites rivières qui ne sont pas aptes à recevoir toutes les eaux venant des toitures, toutes les eaux de ruissellement. Conséquence, érosion. Conséquence, inondation. Conséquence, mort d'homme.
D'accord. Donc on retient que parmi les fonctions essentielles des zones humides, vous avez parlé de la régulation des régimes d'eau.
Il y a habitat.
D'accord, allez-y.
Habitat pour les oiseaux. Habitat pour les poissons. Habitat pour les animaux. Et pour la végétation. Ça, c'est capital. OK. Habitat.
Pour les oiseaux. Pour les poissons,
pour les poissons,
la végétation.
Oui, et même pour nous.
Mais il y a certaines personnes qui vont construire dans les zones humides après, et ces personnes se plaignent, il y a l'humidité dans la maison.
Justement.
Alors on peut dire que c'est pas des zones habitables.
Mais non, mais ce ne peut pas, on ne peut pas.
Ce ne sont pas des zones habitables.
C'est inconcevable. Mais j'ai dit...
Habitable pour l'homme, bien sûr.
Justement, habitant pour les animaux.
Pour les animaux, mais pas pour l'homme.
Pas pour l'homme.
Oui.
Je disais, l'an 2000, je faisais une émission avec le professeur Tombi et Lelo au niveau du village Silo, qui est déjà parti là, à côté d'Ingiri. J'ai parlé des zones humides à la RTNC. J'ai dit, tel que nous sommes en train de gérer ces zones, ou de les utiliser, nous allons connaître des situations impossibles dans la ville de Kinshasa. Cette gestion irresponsable, plus la sacrétisation, ça va nous créer des problèmes. Un mois après, il y a eu inondation, le barrage au niveau de Bia a cédé, il y a eu plus de 70 morts. Un mois après. Il y a eu inauguration de journée touristique. Nous nous trouvions avec le ministre Ambombolumene et qui voulait m'attaquer. Heureusement que d'autres ont dit, professeur Moutambé, vous avez cherché ma mort. Parce que j'ai dit, le ministre des Affaires foncières et de l'Environnement sont en train de voir. Mais le jour où il y a les dégâts, c'est à ce moment-là où on va aller présenter des condoléances aux membres des familles. Alors que l'on voit qu'ici, on est en train de faire des bêtises.
Donc ce sont des zones qui ne sont pas habitables pour l'homme.
Non. Non.
Et pourtant la spoliation continue.
Mais les gens continuent. Les gens continuent à habiter, s'il vous plaît. Allez à Massina. Le type, il fait son champ du riz, ce qui est bon, mais il va finir par construire. Allez à Chosari Flare. Vous n'avez même plus un mètre carré des zones que les Chinois ou que ont commencé à faire le riz, que le président Mobutu avait créé comme ceinture verte. Tout est habité. Tout. Mais les inondations sont là tous les jours.
Voilà.
Soke baby, l'état telle la biso
Makambo. La biso le Kambo.
Bon.
Voilà, c'est un problème. Alors, professeur, comment doit-on gérer de manière responsable les zones humides?
Très simple. Contactez le professeur Mutombo qui le gère facilement.
Mais le professeur Mutombo ne peut pas gérer toutes les zones de la République seule.
Mais, non, mais il y a des spécialistes.
Bien sûr.
Il y a des spécialistes. Donc, non, c'est simple. Mm. Moi, si vous prenez le français, on crée un centre qu'on appelle Cali, centre d'alvinage de l'Embaïmbou. Ce centre continue à garder son caractère de zone humide. C'était abandonné, j'ai le réhabilité. Je produis des poissons, j'ai réhabilité les étangs laissés par le français. Je fertilise ces étangs. Les maraîchers qui sont à côté utilisent mes eaux fertilisées pour produire des légumes que nous mangeons. Vous voyez? La zone continue à garder ses histoires. Vous trouvez des oiseaux, vous trouvez des insectes.
C'était dans la ceinture verte
oui,
du Marshall.
À l'Embaïmbou.
L'Embaïmbou.
Voilà.
Centre d'alvinage.
Centre d'alvinage. Abandonné mais réhabilité par le professeur Mutombo.
Avec combien d'étangs là-bas, professeur?
J'en ai 15.
15.
Ok. Mais j'ai fait venir même l'eau, comme la zone, comme je sers beaucoup de maraîchers, j'ai fait venir, j'ai aménagé le canal que les Français ont fait de 300 mètres pour améliorer, rendre encore la zone plus humide. Et voilà, on a des cultures toute l'année, sans problème.
Les zones humides sont très fertiles, on peut le dire.
Très fertiles. Parce que, imaginez-vous, tout ce qui est tombe comme feuilles, pourrissent sur place. Et c'est de l'engrais naturel. On n'a pas besoin de chercher des engrais artificiels ou des engrais minéraux.
Mais c'est là-bas que les maraîchers viennent planter leur culture.
Oui, sans problème. Sans problème.
Et le rendement est meilleur.
Très bien. Sinon, les gens seraient déjà... Ce serait déjà un désert depuis que les Français étaient partis. Mais si les gens sont là, c'est parce que ces zones continuent à garder leur fertilité. Il y a les oiseaux qui viennent, il y a des animaux qui viennent,
qui sont là-bas.
Il y a des insectes qui sont, les hommes qui viennent pour faire des cultures. Vous voyez? D'où leur intervention dans la vie économique de la population. Amélioration des modes de vie des populations.
Donc c'est de cette façon qu'on peut valoriser ces zones.
Exact. Pas seulement ça, c'est une des façons.
C'est une des façons de valoriser.
Voilà.
Alors, quelles sont les autres façons de valoriser ces zones humides?
Mais c'est simple. Je prends la partie du fleuve Congo ici. C'est une vaste zone humide. Les gens qui font le riz. Vous voyez? Ces zones où on exploite le riz, ils gardent leur statut de zone humide. Ok, les gens.
Le riz pousse bien dans ces zones-là.
Sans problème. Aller à Massina, aller à du côté de même à Kinkole, tout ça, les gens font le riz à quantité industrielle. Sauf qu'aujourd'hui, j'étais parti, voyez à comment vers Kinkole, derrière. Si vous dépassez Nganda CC, avant d'arriver à Nganda CC, on faisait le riz, mais maintenant on commence à construire. À Massine aussi, des zones où on exploitait, on commence à construire. Sans parler d'autres zones qui sont en dehors du fleuve, telles que Ndjili Brasserie. Donc c'est devenu des zones habitables.
Des zones habitables.
Voilà.
Ce qui est dommage.
Ce qui est très dommage.
Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples des pays africains où ces zones humides ont été valorisées? Et les résultats?
Le Congo Brazzaville. Moi, c'est pas une autre personne. Moi, Mutambu, professeur à l'université de Kinshasa. Je suis en train de faire le plan d'aménagement des zones humides au lac de la réserve communautaire de lac Télé à Brazzaville. Moi, je suis encore en train de faire le plan d'aménagement à Brazzaville, au parc national de Nwambalendoki. Et on est aujourd'hui en application de cette zone, des différentes zones de humides.
Et qu'est-ce qui sera fait exactement dans ces zones-là, au Congo Brazzaville?
Par exemple, aujourd'hui, nous avons pu identifier là où les poissons sont en train de pondre. Donc, ce qu'on appelle le frayère. C'est qui nous ont montré là où les poissons font pondre. Ce sont des pêcheurs eux-mêmes. Et maintenant, on dit cette zone ici, c'est interdit pour faire la pêche. On sait que ici, c'est, cette zone-là, c'est interdit pour faire l'agriculture. D'habiter. Il faut laisser les poissons calmes. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Aller le long du fleuve, il y a un étudiant qui vient de faire un travail avec moi. Toutes les zones où les poissons viennent pondre sont détruites, s'il vous plaît.
Par qui?
Sont détruites. D'ici demain, Kinshasa n'aura plus un poisson. Il faut aller à Kwamutu pour attraper un poisson. Est-ce que c'est normal?
Parce que les zones de frayeur sont détruites.
Voilà.
Et pourquoi les poissons préfèrent aller dans les zones humides pour...
C'est leur maternité.
C'est leur maternité.
Je vous ai parlé de l'habitat.
Oui.
C'est ça. Donc bientôt, là, je vous dis... Le peu d'espace qui reste, les alevins qui viennent là-bas, vous les trouvez à Kinkole, à quantité industrielle. Les zones où les d'autres poissons pouvaient pondre sont remplacées par des maisons, par des grandes cités. Comme s'il n'y avait pas de terre ferme pour construire des cités.
Bien.
Mais tout ça ouvre aussi des ministres chargés de l'aménagement du territoire.
On revient sur ces thèmes dans quelques instants. Comment valoriser les zones humides de la RDC? Mutambu Shango, expert en écologie du milieu aquatique, est l'invité de Okapi Service. Vous avez des questions, des préoccupations? N'attendez pas les dernières minutes de l'émission. Appelez-nous déjà au 081-890-63-94. 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment valoriser les zones humides de la République démocratique du Congo? Nous recevons aujourd'hui le professeur Mutambu Shango, expert en écologie du milieu aquatique. Vous avez dit déjà, vous valorisez ces milieux dans le centre d'alvinage de Lemba Imbu, où vous avez 15 étangs, et puis les maraîchers sont là aussi pour faire leurs activités. Alors, à part les étangs et le maraîchage, comment est-ce qu'on peut encore valoriser ces zones?
Mais écoutez, nous avons la première zone humide reconnue internationalement, c'est le parc des mangroves à Moanda. Mais ça fait une zone extraordinairement riche en biodiversité, et ça qui constitue aujourd'hui même un centre écotouristique.
Hein? Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas dans ce parc?
Mais d'abord le mangrove, qui sont des végétations un peu extraordinaires, avec des racines à l'extérieur et tout consort. Il y a même une espèce animale très rare, le lamantin. On les trouve là-bas. Mais ce qui est grave, nous sommes encore le premier à détruire cette zone-là, qui devait être notre richesse à protéger durablement. Aujourd'hui, vous trouvez les gens viennent couper, faire le makala. Et les conservateurs se battent comme un loup pour la protection de la zone. Il est obligé de recourir à la conservation à papa, au lieu de dire une conservation durable, c'est-à-dire faisant intervenir toutes les parties prenantes, parce que c'est une richesse pour tous les Congolais. Donc tout Congolais doit intervenir de la gestion de ses ressources. C'est ce qu'on pourrait appeler la gestion durable des ressources naturelles au Congo. Parce que tout le monde fait partie intégrante des gestionnaires. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc voilà. Et c'est accessible. Mais je ne sais pas, hein, je connais le Sénégal bien, j'ai vu beaucoup de sites aménagés par les Congolais. Mais vous partez là chez nous, en dehors de la partie qui est gérée par l'ICCN. C'est malheureux, vous allez même à la confluence du fleuve Congo. Ce sont des militaires qui vous donnent des explications comment le fleuve entre ici et le tourisme, personne. Compliqué.
Voilà. Comment valoriser les zones humides de la RDC, professeur? Alors, est-ce qu'on peut dire pour les zones qui sont déjà occupées par les maisons d'habitation, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il les détruire et qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Pour moi, oui. Pour moi.
Celles qui sont pas encore occupées, mais il faut les protéger.
Il faut les protéger.
En mais, faisant quoi exactement?
Mais attendez, prenez par exemple des bonhommes ici. C'est une grande zone humide. Mais les gens ont construit. Mais vous avez des rivières, des petits ruisselets là, partout. Et avec ces petits ruisselets, comment aménager la nappe phréatique? On est en train même d'essuyer la nappe phréatique parce que c'est là où on fait les fosses septiques. Et toutes les bêtises qui sont dans les fosses septiques vont directement dans la nappe phréatique. Vous trouvez ça normal? Et là, c'est là le foyer des moustiques. Et c'est typhoïde, malaria et tout consort. L'état Talela Likamboyo. Vous arrivez au l'ancien village Silo. Vous ne trouvez aucun insecte. Mais en face, Angili, en face, vous trouvez des oiseaux, vous trouvez des insectes, vous trouvez la végétation. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser les gens mourir. Avec la malaria, la fièvre typhoïde, suyer la nappe phréatique, nos eaux. Alors que nous avons des espaces vides.
Voilà. Voilà. Alors nous avons un auditeur en ligne, Vinaza, qui nous appelle du village Kasséi, en Ituri. Vinaza, bonjour. Vinaza, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Ma question est liée au thème que vous êtes en train de débattre. Je suis pêcheur au lac Albert. Malheureusement, nous avons une zone de feuillère, là où les zones entre dans le lac Albert sont des zones réservées pour la naissance des poissons comme la maternité. On y a placé un village dans les zones interdites. Récemment, nous avons été estomaqués par le fait qu'on est allé créer, on a installé une zone là pour se faire arroler pendant les élections. Et nous, les autorités ont refusé de ne pas y placer le bureau d'enrôlement. Malheureusement, c'est dans la zone de Feuillère où on a placé ces bureaux d'enrôlement. Ça dépasse notre entendement, d'autant plus que ce sont des zones interdites. On ne devrait pas y habiter. En posant la question aux membres de CENI, ils nous ont fait un jeu de ping-pong. Il faut demander à l'administration. Mmh. L'administration dit non, c'est provisoire, mais il y a même des arrêtés qui interdisent que les gens n'y habitent pas. Mais quand nous avons posé, comment est-ce que les gens vont s'enrôler dans une zone de feuillère? On nous dit, non, on n'est pas allé faire la pêche, mais on est allé enrôler les gens. on n'arrête pas les poissons. Moi, je dis non, c'est comme si on peut même placer aussi ce bureau dans le cimetière ou bien au grand marché que vous avez à Kinshasa là peut-être. Il y a des zones où on ne peut pas habiter.
Oui. Donc, vous avez dit qu'on a installé, Vinaza, on a installé un bureau de la CENI dans une zone... Oui, d'enrôlement des électeurs.
Dans la zone de Frayères. Nous avons dit non, c'est là où on ne devrait pas le faire. Parce que
oui.
L'exemple vient d'ahor, pas une si grande autorité qui va accepter parce que on installe un bureau d'enrôlement dans la zone de Frayères. Je ne sais pas si l'exemple vient d'ahor. Si on commence à commettre de telles choses au niveau de la base, nous sommes au seul fond de la République. Nous croyons que vous venez de Kinshasa, c'est vous qui avez le bon exemple à nous démontrer. Mais malheureusement, si on est allé enrôler les poissons, les hippopotames, ou bien les poissons, je ne sais pas. Ça dépasse notre entendement, d'autant plus que on devait respecter le fiscal des patrimoines nationaux. Les jeunes viennent même mettre de l'eau, construire des écoles. Au niveau des zones de Frayères, c'est là, on vit au-dessus de l'État. Quand on pose la question, on nous fait un jeu de ping-pong.
D'accord, merci Vinaza. Merci Vinaza, on a compris. Mokbo nous appelle depuis Ouattara. Bonjour Mokbo, et quelle est votre question?
Bonjour à l'invité.
Oui.
Je suis avec beaucoup d'intérêt à ce sujet-là. Mais j'ai des préoccupations par rapport à ces zones-là, ici, chez nous, pour la sécurité de nos chats, par exemple, ces zones-là qui environnent nos chats. Nous avons l'habitude de mettre du feu, sinon les animaux et puis les oiseaux nous menacent tellement, il faut toujours mettre du feu.
Les zones humides.
Si c'est dans les bas-fonds pour nous attraper des poissons, généralement, pendant la saison sèche comme cela, nous avons une série de poisons, nous versons dans l'eau et puis les poissons meurent de gauche à droite et nous ramassons. Je ne sais pas, qu'est-ce que l'invité peut dire? Est-ce qu'on peut continuer comme ça ou on peut arrêter?
Alors, professeur, vous pouvez lui répondre directement.
Oui, sans problème. Mon cher ami, les poissons, ce sont des êtres vivants qui ont droit à la vie comme nous. Donc, si nous devons chercher des poisons pour tuer les poissons, ce n'est pas bon. C'est... OK. Mais il y a une façon de faire la pêche sans pouvoir détruire le poisson. Vous savez, parce que si vous êtes là aujourd'hui et vous mangez les poissons, c'est parce que vos ancêtres ont pu laisser les poissons. Mais si aujourd'hui vous utilisez les poissons et que demain on ne trouve rien, qu'est-ce que vous auriez laissé?
Même les alevins.
Bon, qu'est-ce que vous auriez laissé à vos enfants?
Donc il faut pas utiliser les poisons pour attraper, oui.
Il y a des techniques qui sont durables que vous pouvez utiliser sans pouvoir détruire les poissons, sans pouvoir créer des dégâts. OK? Aujourd'hui, vous ne détruisez pas les Frayères. Demain, par exemple, vous prenez un golo. Si vous n'avez pas détruit le Frayeur, demain il va pondre, un golo d'un kilo va pondre 60 000 œufs. C'est vrai que ces alevins seront mangés par d'autres prédateurs, mais vous ne manquerez pas 10 000 alevins qui vont résister, qui vont échapper à la mort si vous voulez. Mais il y a 10 000 poissons. Et s'il y a 100 golos, vous avez 100 000. Là, vous pouvez en manger, vos enfants vont encore trouver quelque chose. Le milieu restera toujours riche en poissons. Hein? Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser des techniques de pêche qui soient durables. C'est-à-dire qui ne détruisent pas. Ensuite, vous dites brûler tout ça là. Mais ça vous-même.
Mettre le feu dans les zones humides.
Et après,
dans les zones de frayeur.
Vous-même, vous allez manger quoi? Vous allez trouver quoi? Donc, mon cher ami, réfléchissons, voyons ce que nous devons faire.
Ce ne sont pas des bonnes techniques,
Faites même les techniques que nos ancêtres nous ont laissées, parce que ces techniques nous permettent aujourd'hui de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire manger bien, Parce que nous mangeons bien au Congo. Hein. Les gens disent ailleurs, nous souffrons. Je regrette, moi qui connais beaucoup les pays africains, nous sommes meilleurs, pour au moins pour la nourriture. Surtout vous qui êtes à Ouata.
Voilà. Ingénieur Mangoyo nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Monsieur Jourdi.
On vous écoute.
Merci pour m'avoir accordé la parole. Depuis ma bord, je tiens à présenter mes condoléances à la famille biologique du patriarche Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter, ainsi qu'à sa famille politique. Jourdi, moi, j'ai l'habitude de suivre le professeur, notre invité, mais à chaque fois quand il intervient, moi j'ai la chair de poule. J'ai peur. Alors la question que je lui pose est la suivante. Lui, en tant que professeur, il a dit qu'il est au Congo-Brazzaville en train de travailler pour le compte, bien sûr, de ce pays-là.
Au Gabon?
Il est prof... Oui, j'ai dit ceci, hein.
Oui, au Gabon aussi.
Oui, au Gabon, voilà, au Gabon ici.
Au Cameroun.
Alors, au Cameroun, donc vous êtes dans plusieurs pays africains, si je m'abuse.
Oui.
Alors, monsieur le professeur, vous êtes patriote, vous êtes grand professeur d'université, mais est-ce que vous n'avez pas des entrées au gouvernement? Qu'est-ce que vous faites pour faire passer toutes vos idées, la riche, au niveau du gouvernement? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu tout le temps de venir nous donner de l'eau à la bouche, à la radio, tout ça. Vous savez que moi j'ai peur, moi j'apprécie, j'adore les poissons. Mais à vous entendre parler, mais il y a péril à la demeure.
C'est vrai. Répondez-moi
un peu, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser le pouvoir public pour que finalement vos idées soient mises en œuvre comme vous le faites dans d'autres pays africains?
Je peux répondre directement?
Ah oui, monsieur le professeur.
Mais féliciter la radio Okapi parce que je suis suivi même en Inde, même en Chine. Si je viens justement, c'est pour faire la sensibilisation de ce que je fais. Si je dis que je fais ça, est-ce que vraiment vous croyez qu'au Congo on me demande de faire, je ne le ferai pas? Et si la radio Okapi m'invite, c'est pour faire, pour prêcher ce que je peux et ce que je fais. Ok, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai dit il faut manger les poissons, mais c'est moi, grâce aussi à la radio Okapi, qui distribue les alevins aux pisciculteurs qui sont reconnus auprès des gouvernements provinciaux à Kinshasa. À l'heure où je vous donne, je vous parle, j'ai déjà distribué plus de 100 000 alevins, papa. Je ne sais pas si...
Au pisciculteur.
Au pisciculteur. Il n'y a pas un centre de production d'alevins en Afrique centrale en dehors de la RDC.
Vous travaillez donc, en collaboration
continuez
avec...
Continuez toujours à avoir votre peau de chair pour que je puisse encore travailler davantage.
Et mais il dit, pourquoi... Vous avez dit qu'il y a déjà le projet des alevins, vous le faites avec le gouvernement provincial de Kinshasa.
Oui.
Mais pourquoi ne pas aller plus loin pour les zones humides?
Mais
pour les valoriser.
Mais vous êtes là, c'est ce que nous faisons. Est-ce que les autorités ne vous suivent pas? Je sais que le gouvernement m'a tête à passer là. J'ai été invité au moins 4-5 fois à Bukangalozo. J'ai donné mes avis parce qu'on voulait faire l'élevage à cage flottante sur la rivière Kwango. J'ai donné mes avis. Je crois que j'ai été entendu parce qu'on n'a pas pu faire ça. Parce que pour moi, c'était vraiment impossible, un projet fait en Afrique du Sud, on vient implanter au Congo, ce qui n'est pas possible. Vous comprenez? Là où on m'invite, mon cher ami, je n'hésite pas. Parce que j'ai droit à dire ce que je peux pour le bien de mon pays. Hein? Pour être ce qu'on appelle Sisabidimbo. Dans mon domaine.
Dans votre domaine.
Voilà.
Déo Gracias nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, Papi.
Quelle est votre question, Déo Gracias?
Oui, j'ai un peu une question et des préoccupations. Parce que le problème de la gestion des zones humides, moi, j'attribue premièrement ce problème à notre gouvernement. Parce que tous les ministères du pays ont des experts. Donc, par rapport à cette question, il fallait que le gouvernement résolve ces questions en amont et non en aval. Parce que il y a un manque de
oui,
communication entre ministères, je vais dire. le ministère de l'urbanisme et habitat, le ministère de culture, pêche et élevage et le ministère de la santé peuvent collaborer à cette situation. Au lieu que le ministère de la santé attende que la nappe phréatique soit dédommagée, soit atteinte de certaines maladies pour qu'à la longue ça produise les problèmes de la santé, il serait mieux que le ministère de l'urbanisme habitat sache où on peut les, quel terrain on peut lotir et quel terrain il ne faut pas lotir en vue de conserver la nature. Et il fallait que le ministère aussi de pêche, culture et élevage dise que non, lorsque vous lotissez dans ces zones humides, c'est maintenant moi je ne saurais pas comment trouver pour développer mon secteur.
D'accord.
Mais voilà, voilà que même les problèmes se posent lorsqu'il y a déjà des conséquences. La population dit oh, l'État est là, bisous du Cambodge. Mais il fallait que ces problèmes soient posés en amont pour dire que non, si vous lotissez dans, dans tel terrain, et les poissons, nous ne serons pas conservés la nature, et les problèmes sanitaires vont se poser. Et il fallait que l'État voie cette situation
Merci.
En amont et non
Merci.
En aval lorsque les conséquences seront produites.
Merci Déo Gracias, hein, il nous dit qu'il fallait
mais,
une collaboration
non,
entre
mais
les ministères.
Il a raison.
Oui.
Dans tous les pays qui se respectent, il y a ce qu'on appelle le plan d'aménagement. Et dans le plan d'aménagement, toutes les institutions ont droit à intervenir, y compris la population. Pourquoi est-ce que dans les pays développés comme la France, on veut construire un aéroport, l'État, c'est-à-dire les différents ministères interviennent.
On détermine les zones habitables et les zones habitables et non tout. Habitables.
Et si la population même est contre, il marche. Mais ici, chez nous, je ne sais pas qui prend les décisions. Je prends la cité, par exemple, la cité du fleuve. Est-ce qu'on a fait un plan d'aménagement?
Parce que c'était une zone humide aussi.
Ah oui, une grande, zone humide. Une grande zone humide qu'on a détruite. Je regrette, mais c'est ça. Et je me rappelle même, il y a le professeur Kabasele qui disait que si on terminait à construire cette cité, Lista et Ndolo risquaient de disparaître un jour.
Pourquoi?
Mais parce que il y a la communication entre le fleuve et cette zone humide-là. Mais le mur qu'on a construit là empêche maintenant l'eau venant de Ndolo, de Sissi, d'arriver au fleuve. Donc il y aura accumulation, donc inondation. C'est le professeur qui le disait. Moi je ne suis pas géomaticien, mais je suivais ça à la télévision, à la B1.
Oui.
Bon.
Voilà.
Donc, le problème de plan d'aménagement pour tout est nécessaire.
Est nécessaire. Par exemple, lorsqu'on va installer un bureau de la CENI dans une zone de frayeur vers Kassigny, là, à Nitouri, Vinaza nous l'a dit, mais il ne comprend pas.
Mais moi non plus. Moi non plus. Il y a des choses. Moi, je ne comprends
Donc,
pas.
Donc, les gens sont allés construire, aménager des bureaux dans une zone de frayeur.
Bon. Alors, je crois que. Je ne peux pas. Je crois qu'on est maudit quelque part. C'est vrai. Je regrette. Parce que
bon,
si on était conscient.
C'est une question d'organisation déterminée.
Mais quand
vous avez parlé du plan
d'aménagement. On travaille en divagation, s'il vous plaît.
Vous avez parlé du plan d'aménagement. On devait savoir, voilà, ces zones-là, il faut pas les lotir, il faut pas construire. Et là-bas, il faut le faire. Mais ça, peut-être qu'il y a des failles de ce côté-là. Ouais.
Peut-être, non, il y a des failles. Mais prenez même la ville de Kinshasa. Les Belges, avant de partir, ont fait un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Les Belges partent, maintenant nous faisons où est-ce qu'on fait le plan? Je ne sais pas. Des zones où les Belges ont dit, c'est le sol n'est pas bon, la situation topographique n'est pas bonne, ceci, c'est là. Nous venons, on construit,
bien,
s'il vous plaît.
Alors, professeur, dites-nous pour terminer, si on arrive à valoriser ces zones, qu'est-ce que cela va nous rapporter comme bénéfice?
Bénéfice?
Oui.
Déjà, garder notre territoire. Vous savez, quand le pays est bien construit, ça vaut la peine, non? Mais demain et aujourd'hui, on ne peut même pas faire de route. Pourquoi? Vous savez, le goudron et le goudron, le ciment ne se marient pas avec l'eau. Mais on est en train de construire des routes sur des zones humides. Vous pouvez mettre autant de béton que vous voulez. Dans une semaine, c'est fini, ça s'écroule. Et demain, Kinshasa, oh boy. Mais non. L'aménagement, c'est la source de tout.
Professeur, il n'est pas encore trop tard. Donc, on peut encore repartir à zéro et revaloriser ces zones humides.
Oui, mais
on ne perd pas l'espoir, professeur.
Moi, non, pour moi, ça, c'est un faux principe. On est une fois. Même Jésus était né une fois. La deuxième fois, c'était une résurrection. Et on sait les conséquences de la résurrection. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas naître deux fois. Pour moi. Bon, pour les autres, c'est possible.
À la deuxième fois, il faut la résurrection. Merci, professeur Moutambo Changoué. Je rappelle que vous êtes expert en écologie du milieu aquatique. Le votre numéro de téléphone. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent valoriser les zones humides, sont intéressés. On peut vous joindre à quel numéro?
Ils peuvent venir me voir sans problème. Oui. 081.
D'accord.
58.
Mm-hmm.
30.
Mm-hmm.
347.
081 58 30 300
47.
47. Professeur, merci et bonne journée.
Je vous remercie aussi. Et comme a dit mon frère là, je crois que grâce à vous, je me fais attendre et les zones humides seront valorisées.
Merci, professeur.
Merci.